BW. Droits et libertés.
Le 8 mai vient de passer, date anniversaire de l'armistice de 1945 qui a mis fin au combat de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais que s'est-il passé après la capitulation sans condition de l'armée allemande en Allemagne? Comment la population a-t-elle vécu l'immédiate après-guerre? Est-ce que c'était un sentiment de lourde défaite ou alors de libération du poids de la dictature? On y réfléchit cette semaine et on en discute avec l'historien Klaus Petersik du centre Marc Bloch à Berlin. Au micro Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Avant de retrouver notre invité de cette semaine, je pense qu'il est nécessaire de revenir un petit peu sur le contexte de mai 1945. La date du 8 mai sonne le glas du Troisième Reich, le régime nazi emmené depuis 1933 par Adolf Hitler et qui a fait des millions de morts et semé la terreur en Europe. Une peur de tous les jours dont témoigne aujourd'hui Myriam Zilbermann. Âgée de 82 ans, elle est une survivante des persécutions nazies. Elle a vécu cachée à Mons, en Belgique, entre 1942 et 1945.
Moi, je n'ai pas été déportée, mais je suis juive. Je n'ai pas vécu la guerre comme d'autres personnes qui ne sont pas juives. Hein, parce que moi, j'étais cachée sous un faux nom. Mais cachée, ça veut dire que j'allais quand même à l'école. J'avais 5 ans, je pouvais sortir. Le danger venait des traîtres éventuellement ou de ceux qui pouvaient nous trahir. Mais nous vivions dans une peur permanente. Même en tant qu'enfant, la peur des parents se transmettait sur nous.
Hanna Berger, elle, est née de parents tchécoslovaques dans le camp de concentration nazi de Freiberg le 12 avril 1945. Quelques jours seulement après sa naissance, elle a été déportée avec sa mère dans le camp de Mauthausen qui a été libéré par les troupes américaines le 5 mai. Hanna était donc un bébé de 3 semaines à l'époque. Ce début dans l'existence l'a poursuivi toute sa vie. Et aujourd'hui encore, Hanna écume les écoles pour parler de la guerre et du génocide des Juifs.
I knew that I have to justify my reason for living.
J'ai eu l'impression plus tard de devoir justifier mon existence. Je me suis assignée pour mission d'aider les gens. C'était la chose la plus importante pour moi dans la vie, d'avoir une raison de vivre et de gagner le droit d'être en vie. J'espère y être parvenue en partie.
Un autre témoignage de la marque indélébile des crimes nazis, y compris chez les survivants qui ont à peine vécu consciemment cette époque, celui de Florence Schulman, française, elle aussi est née en 1945 au mois de mars, dans un camp d'extermination à Bergen-Belsen.
Ma mère est arrivée tout à fait en fin de parcours, puisqu'elle est arrivée au mois de janvier 1945 et le camp était libéré en avril. Donc, elle m'a mise au monde à côté d'un monceau de cadavres. Voilà, c'est tout, à peu près tout ce qu'on m'a dit et tout ce que je sais. Ma mère ne me parlait pas de sa vie dans le camp parce que, pourquoi ? Parce qu'elle ne parlait à personne.
Ce témoignage, donc, pour évoquer l'ampleur des horreurs dont le régime nazi s'est rendu coupable. Mais pour bien comprendre l'ambivalence ressentie par le gros de la population allemande au lendemain de la capitulation de 1945, il faut bien se représenter que l'écroulement du Troisième Reich, ça signifie aussi celui des valeurs inculquées aux Allemands pendant 12 ans à grand renfort de propagande, celle orchestrée par Joseph Goebbels. Tout de suite après la pause, on retrouve l'historien Klaus Petersik du centre Marc Bloch à Berlin pour en discuter.
Soldaten brachen in mein Leben, sagten ich sollte mich ergeben. Doch das konnte ich nicht. Ich griff zur Waffe und verschwand. Meiner Namen 100 sind. Ich verlor längst Frau und Kind. Doch ich bin nicht allein. Manch Freund. bist hier mit mir.
Klaus-Peter Sieg, comment est-ce que le 8 mai 1945 a été vécu par les Allemands, par la population allemande ?
Il y a eu très longtemps, il y a encore un petit peu, un débat en Allemagne sur la notion de l'écroulement vis-à-vis de la notion de la libération. Si on lit ces jeunes adultes ou ces jeunes adolescents d'alors, on se rend compte que 12 années ont suffi d'imprégner les esprits jusqu'à la Lie. Et il faut aussi savoir que la guerre a été portée sur le territoire de l'Allemagne seulement depuis quelques mois. Et beaucoup de jeunes Allemands, par exemple, vivaient depuis quelques mois déjà à la campagne où il n'y avait, pour ainsi dire, rien de changé au quotidien.
Mais est-ce que c'était une surprise pour les Allemands ? Parce qu'ils devaient quand même avoir senti déjà le vent tourner, puisque le 8 mai 1945, c'est l'aboutissement d'un processus qui est plus long.
Est-ce que c'était une surprise ? Non, je ne crois pas. Les Allemands étaient inquiets depuis au moins Stalingrad. Ils savaient très bien
donc,
que
42.
La guerre allait tourner mal. Mais la propagande dans cette dictature était telle que les esprits étaient totalement encore baignés par les mots de Hitler et de Goebbels surtout, et que cette propagande marchait très bien.
Alors, est-ce qu'il y a eu aussi tout de suite l'idée au sein de la population, cette forme de honte qui sera exprimée plus tard vis-à-vis de ce qu'a commis le régime nazi et donc l'Allemagne ?
La honte, vous savez, elle existait aussi dans la population. Il y avait une résistance allemande circonscrite, mais elle existait. Il y avait des milieux dont on sait qu'ils étaient quand même plus étendus qu'on l'a pensé longtemps, où on savait ce qui se passait aussi avec les déportations et la terreur incroyable subie par la partie juive de la population allemande et en dehors. Il y avait une conscience de ces horribles faits dans la population allemande, mais cette conscience ne suffisait pas souvent pour avoir un sentiment de libération au moment du 8 mai. Une trop grande partie de la population était encore trop liée au régime, à la société qui venait de disparaître, et que tout le monde était à peu près conscient des responsabilités des uns et des autres au sein de cette société du Troisième Reich qui n'existait plus. Les anciennes hiérarchies, pour les Allemands normaux, restaient en place.
À partir de 1949, il y a deux États, un État ouest-allemand rattaché politiquement, idéologiquement au bloc occidental et notamment aux États-Unis, et le bloc oriental, la RDA, Allemagne de l'Est, qui, elle, fait partie du bloc régi par Moscou. Dans les deux Allemagnes, il y a des perceptions très différente du 8 mai 1945. On n'en parle pas du tout de la même façon, ce n'est pas la même attitude.
Non, et jusqu'à maintenant, dans l'ex-RDA, la perception de ce jour du 8 mai est toujours 75 ans après les faits, différente de la partie occidentale de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que le régime communiste, le gouvernement en Allemagne de l'Est, a fait du 8 mai 1945 un jour de libération, de mémoire, pas toujours, mais une grande partie de l'existence de la RDA. Cela a été un jour férié. Et c'est parce que la RDA est un État qui est né du mythe de la résistance, du mythe antifasciste, tandis que la constitution même de l'Allemagne fédérale, de l'Allemagne de l'Ouest, de la République de Bonn, est une constitution où chaque mot respire l'esprit de la résistance antinationale socialiste. Mais on était plus conscient, je crois, que les élites, par exemple, économiques, culturelles et aussi les élites politiques, pas au niveau le plus élevé, mais au niveau des Länder fédéraux, il y avait quand même une continuité sans doute trop forte.
Alors, c'est en 1985 que le président ouest-allemand Richard Weizsäcker va pour la première fois évoqué officiellement dans un discours devant les députés du Bundestag que le 8 mai est aussi un jour de libération. Étonnamment, lui-même, il est le fils d'un homme qui a travaillé pour le régime nazi. Est-ce que ça, c'est une date aussi capitale ?
C'est une date énorme, d'une importance clé. Je vais vous citer un bref passage de ce discours de Weizsäcker. Le 8 mai 1945 avait été un jour de libération. il nous a tous libérés du système inhumain de la terreur national-socialiste. Ce n'est pas pour autant que l'on doit oublier les souffrances qui avaient commencé ce jour. Mais nous ne devrions jamais penser que c'est la fin de la guerre qui avait été la cause de l'émigration de tant d'Allemands des anciens territoires de l'Est vers l'Ouest, de leur expulsion ou d'autres formes d'oppression. Cette cause, et c'est la clé de ce discours, est le déclenchement de la guerre par l'Allemagne et par cette dictature qui a mené à la guerre. Alors, pourquoi est-ce que le 8 mai n'est toujours pas férié en Allemagne, comme par exemple en France et ailleurs dans le monde? Il n'est pas férié parce que, et ce discours le dit déjà, parce que l'Allemagne ne veut pas faire comme si elle avait été du côté, tout simplement, des vainqueurs. Le danger de se voir du bon côté et la mémoire des faits va être perdue.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
Merci beaucoup à Klaus Petersick du Centre Marc Bloch à Berlin, qui a co-signé avec Robert Bello la Seconde Guerre mondiale pour les nuls, paru en 2011 chez First Edition. Pour podcaster Droits et Libertés, allez faire un petit tour sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Il est mort sans soupir.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.